Sinon, je vais inviter Maître Deschamps à prendre le podium pour nous faire une synthèse de ces deux journées captivantes.
Alors, bon après-midi à tout le monde. C'est toujours agréable quand le Dr Agwizi dit « Ce colloque-ci, c'est toi qui vas faire le résumé des deux jours de conférence. » C'est un challenge, je vous dirais, en quelques mots, de pouvoir survoler ce qui a été dit et de vous livrer comme un message de clôture à rapporter chez vous avec les éléments les plus importants. Je vais laisser tantôt le Dr Agwizi vous remercier tous. Je tiens à le faire personnellement. Vous avez été très assidus, très disciplinés, très attentifs, et c'est tout à votre honneur. Pour ce qui est des conférenciers, je voudrais vraiment les remercier, parce qu'on leur avait imposé une thématique qui était celle de la qualité, comment l'améliorer. C'était la thématique générale du colloque, et on s'est aperçu, et vous vous êtes certainement aperçu, qu'ils ont répondu à la commande qui leur avait été faite, et chacun dans son domaine, exposant des particularités de son domaine, a quand même donné sa perspective sur comment améliorer la qualité. Et pour nous, c'était important, et vous avez pu le voir hier quand j'ai fait ma présentation, quelle importance j'accorde. Oui, au respect des personnes, oui à l'élimination du gaspillage, mais oui à l'amélioration continue. Et si moi, personnellement, j'avais à vous donner un message, c'est demandez-vous comment vous pouvez vous améliorer quotidiennement dans ce que vous faites, dans votre vie personnelle, dans votre vie professionnelle. Quand ma fille avait 15 ans, j'avais mis au tableau de la cuisine deux mots. Excellence ou médiocrité. Et encore aujourd'hui, elle s'en trouve insultée. Parce qu'elle a dit, c'était de mettre sur mes épaules une pression trop grande. Et moi, je lui ai dit, écoute bien, dans la vie, ce qu'on cherche, c'est l'excellence. On veut avoir un excellent boulanger, on veut avoir un excellent cordonnier, on va avoir un excellent fromager, un excellent mécanicien. On ne veut pas avoir des gens médiocres. Alors, si c'est nos attentes par rapport aux autres, bien, je pense qu'on devrait se faire un devoir de miser sur l'excellence. Et quand on regarde toutes les présentations, je vais essayer de les résumer très, très brièvement parce que c'est un vendredi après-midi et les gens ont hâte de rentrer à la maison. Comme je vous ai dit hier, je vous ai présenté mes propres réflexions en ce qui concerne une gestion de la qualité, une gestion de la gouvernance. Par la suite, nous avons eu Mylène Deschênes qui nous a parlé de l'importance de développer au sein de nos institutions une culture de l'intégrité. Et ça, je pense que c'est un message à rapporter. Comment développer une culture de l'intégrité? Elle nous a dit que celle-ci se bâtit au quotidien, jour après jour, dans toutes les petites activités que l'on fait. Et elle a insisté sur le fait que bâtir une culture d'intégrité, c'est un investissement. Et le terme investissement est encore revenu aujourd'hui, un investissement collectif pour assurer le succès en recherche. Donc, il faut investir dans ça. Et finalement, elle a insisté sur l'importance pour les CER d'avoir une vision commune de leur double fonction, à savoir celle de l'évaluation indépendante des projets de recherche, mais aussi une obligation de rendre compte. Richard Carpentier, lui, nous a fait voyager, je ne dis pas à travers le temps, mais à travers le monde. Il nous a présenté les pour et les contre, les avantages et les inconvénients de ce qui en ce qui concerne la révision éthique centralisée. Et il nous a présenté un état de situation, tant dans les provinces canadiennes qu'à travers le monde. Et il a dit, en fait, qu'on n'avait pas à s'engager finalement, ou on devait avoir comme interrogation, doit-on s'engager dans des processus qui n'ont pas de plus-value? Et ça, c'est une autre thématique qui est revenue. Demandez-vous dans ce que vous faites ou ce que vous voulez faire, quelle est la plus-value ajoutée? S'il y a une plus-value, que ce soit pour l'activité ou que ce soit pour les personnes, mais je pense qu'on doit aller de l'avant. Mais si ça n'apporte pas de plus-value, ça va être une perte de temps, une perte d'énergie, une perte de ressources, ça va être un gaspillage. Michel Giroux et j'ai dit ses collaboratrices, mais je vais y revenir. Michel Boivin, Lucie Guérard et Valérie Lemieux, parce qu'ils ont travaillé ensemble, et c'est Michel qui est arrivé avec cette idée-là d'avoir une thématique sur la littératie. Et je pense que tous et chacun dans la salle est très content que cette idée-là ait trouvé preneur au sein de ce colloque. Michel, qui est un fin philosophe et un homme plein d'humour, il a insisté sur l'importance d'accorder en recherche une attention particulière à la littératie. Je pense qu'il en fait une chose personnelle. Il a parlé de l'impact de la littératie sur l'autonomie de la personne, et il a fait un lien pour moi qui est très important. Quand on y pense, pour moi, c'est d'une importance primordiale, avec la dignité de la personne. Littératie et dignité de la personne. Il faut que la personne comprenne, puis si elle comprend, bon, on respecte cette dignité. Il a également fait un lien entre la littératie et la justice, en termes d'accès aux soins. Si je ne comprends pas ce qu'on veut faire de moi ou avec moi, je vais peut-être refuser. Mais là, je me prive d'un accès aux soins. Et il a dit que si je suis bien informé, je serai en mesure de bien participer. Et c'est là qu'on relève toute l'importance de la littératie. Lucie Guérard et Michel Boivin nous ont parlé du comment faire pour passer un message en insistant sur les éléments tels que la scolarisation, l'univers culturel, l'environnement social, la condition psychologique. Elles nous ont également parlé des obstacles à la compréhension, ainsi que des facilitateurs. Je pense qu'on doit réfléchir sur ces éléments-là, parce qu'ils sont revenus plus au niveau technique, renforcer ce que Michel nous avait dit au plan des idées, au plan théorique. On a présenté l'aspect technique du consentement, mais on a insisté également sur le fait que le consentement, c'est un outil de qualité. On a souligné l'importance d'investir le temps à la bonne place. Le temps nous est compté, là je ne parle pas de la vie en général, mais dans ce que l'on fait. Donc il faut vraiment investir au bon endroit. Valérie Lemieux nous a parlé de communication écrite. Elle a parlé de littératie comme déterminant de la santé, de l'importance de changer nos stratégies à communiquer à l'écrit. Et ça, c'est important. On a des habitudes, on a nos façons de faire, mais ce qu'elle est venue nous dire, c'est qu'il faudrait penser différemment. Et si, en écrivant des choses, le message ne passe pas, il faudrait peut-être chercher ailleurs. Elle a souligné au passage qu'assurer une bonne communication, une bonne compréhension, est une obligation éthique. Et s'il y a un domaine où est-ce que, je dirais, nous sommes faibles, c'est que trop souvent, on accepte des choses qui sont inacceptables. On accepte des formulaires de consentement qui, même à nos yeux, sont incompréhensibles. Pour moi, il y a un principe éthique qui dit que accepter l'inacceptable est inacceptable et pas éthique. Et là, je me mets tout le monde dans le même bateau, moi y compris. On a tendance, parfois, à accepter ce qu'on considère inacceptable. Comme disait le docteur Carrier il y a quelques instants, on arrive avec des formulaires qui n'ont pas de bon sens, et sous la pression de X, Y, Z, on les accepte. Et ça, c'est peut-être au détriment des participants. Il a présenté quelques solutions pour améliorer la transmission de l'information par écrit. Sylvie Lacroix et Isabelle Cloutier nous ont parlé des efforts déployés à l'Institut pour améliorer le processus de consentement axé sur les quatre éléments de la roue de Deming. Des fois, ça me fait plaisir quand je vois la route des vignes, je me dis, tiens, mon enseignement, il porte des fruits. Enfin, j'espère que j'en verrai un peu plus. Et ils ont souligné la collaboration qui s'est instaurée entre les CER et une équipe de recherche. Et ça, ils ont expérimenté sur le terrain comment un CER, tout en gardant son indépendance, peut travailler avec des équipes de recherche pour améliorer la qualité du travail qui est fait. Ils ont insisté sur l'importance de développer des processus de qualité. Ils ont souligné que la qualité est difficile à définir, mais on peut la développer des indicateurs de qualité. Puis là, c'est à vous de voir quel indicateur on peut développer. Elle a souligné l'importance de rendre la qualité tangible. Il faut que ça se voit, il faut que ça se touche. C'est comme on voit un tissu, on se dit c'est de qualité ou pas, mais quand on le touche, on dit ça, là, c'est du bon coton, ou ça, c'est de la bonne laine. Elles ont souligné la confection d'un formulaire de consentement de qualité est un travail de collaboration, encore la collaboration qui revient. Il faut que la qualité soit présente à chaque étape du processus de consentement. Là, c'est du début du processus de consentement, quand on confectionne le formulaire de consentement. Puis avec ce qui a été dit ce matin, il faudrait même penser avant même qu'on le formule si on fait de la publicité. Ils ont présenté des moyens alternatifs que l'écrit pour communiquer l'information. Louise Rinquette nous a présenté les enjeux reliés à une demande d'autorisation à la CAI, notamment en termes de délai. Elle a insisté sur ce que constitue une demande efficace. C'est une demande qui est complète. Ce qui veut dire que quand vous faites une demande, ça c'est un autre principe que je n'ai pas évoqué, mais qui est fondamental, le souci du détail. Il faut avoir le souci du détail. Et si vous avez le souci du détail, et si vous regardez tout ce qui doit être fait, puis c'est bien fait de la première fois, on va avoir beaucoup moins de problèmes. Parce que très souvent, on ne fait pas bien la première fois, et on est obligé de faire et de refaire et de refaire. Et ça, c'est une perte de temps, une perte d'énergie, une perte d'argent, c'est du gaspillage. Et quand on fait ça, une petite lumière qui devrait s'allumer et dire « gaspillage, gaspillage, pas éthique, pas éthique ». Elle a décrit ce qui devrait contenir une demande en termes de contenu. Elle a présenté le rôle de l'analyste, souligné l'importance du travail d'équipe, de travailler ensemble. L'accès à l'information personnelle sans le consentement d'une personne a été vu comme un privilège ou une exception. Je pense que les choses ont été claires. C'est pas de droit qu'on peut obtenir des informations sans le consentement. Elle a indiqué comment on peut améliorer la qualité des dossiers qui sont présentés. Et ça, je pense que ça voudrait donner des lignes directives sur comment aborder ces questions-là. Manzawati a souligné que la recherche, aujourd'hui, elle est globale, elle est même internationale. Il a parlé de l'internationalisation de la recherche. Il a mis l'emphase sur le principe de l'altruisme et de la solidarité. Et c'est un peu comme si, en droit, et peut-être que le droit est fautif à cet égard, on parle souvent d'autonomie, on parle d'autonomie individuelle. Alors qu'il faudrait peut-être réfléchir à un autre type d'autonomie qui est l'autonomie, comme il l'a présenté, relationnelle. On est autonome, mais en relation avec les autres. Et ça peut changer peut-être nos façons de voir les choses. Alors moi, je vous encouragerais à penser à cette notion d'autonomie relationnelle et non pas en termes d'autonomie individuelle. Il a souligné l'importance de maintenir la confiance. Il a souligné que c'est l'altruisme qui nous amène souvent à participer à une recherche. Que les gens s'attendent à ce que le matériel qu'ils fournissent soit utilisé pour le plus grand bien-être des autres. Très souvent, en oncologie, les gens participent à des projets de recherche. On sait fort bien qu'ils n'en tireront aucun bénéfice, mais c'est pour ceux qui viendront après. Et c'est là que toute cette solidarité humaine-là s'est donnée pour le suivant sans connaître l'identité du suivant. Ça, c'est de l'altruisme. Il l'a pas dit comme ça, mais c'est un peu ça qu'il se dégage de ce qu'il disait. Que le matériel soit utilisé dans le futur pour des fins scientifiques, mais il a toujours dit avec un encadrement éthique approprié. Il a beaucoup insisté que si on fait des choses qui présentent peut-être un peu plus de risques, il faut renforcer l'encadrement éthique. Il a souligné la différence entre le consentement général, le broad consent, le blank consent. Il a souligné aussi l'importance de partager les données tout en protégeant la confidentialité. Mais quand il dit partager les données, je pense qu'il utilise le terme de façon responsable. Annick Nollet, Nathalie Lecoq et Simon Coulombe, puis ça se demandait s'ils ne devraient pas faire partie de groupes d'improvisation. Moi, je les ai trouvés très, très bons. Ils devraient peut-être s'inscrire dans des... Et ça aussi, ça, c'est un apport de Michel. Michel, il est surprenant des fois dans ses... il faut y faire confiance parce que il dit, oui, vous allez voir ça, ils vont faire un petit... Puis là, on voit des gens qui font une mise en scène. Je pense que ça rehausse le colloque, puis ça change un petit peu. Des fois, on est un petit peu constipé par certaines thématiques, je ne dis pas certaines présentations, mais certaines thématiques. Mais dans un jeu de rôle, ils ont abordé la question du recrutement par le web, par les médias sociaux, de participer à la recherche. Et à partir d'un cas fictif, on se rappelait du Dr. Tweet, ils ont analysé les enjeux éthiques et juridiques, notamment ce qui concerne la vie privée et la confidentialité sur le web. Dans quel domaine on est? Est-ce qu'on est dans la sphère publique ou dans la sphère privée? Si je participe à, je sais pas, un réseau, mais c'est un réseau fermé, ça peut être privé, mais si c'est un réseau ouvert, ça peut être public. Ils ont aussi souligné la nécessité d'adopter des formulaires de consentement qui est adaptés à cette réalité-là. Des formulaires de consentement où est-ce que les gens comprennent la réalité des enjeux reliés à l'Internet et au Web, et de développer des meilleures pratiques en matière de sécurité et d'essayer de voir c'est quoi les attentes de vie privée. Je dois vous dire que c'est un domaine en pleine évolution ou en pleine ébullition, et souvent on a de la misère à distinguer ce qui est privé ou ce qui est public. On a fait des efforts pour avoir des lois sur la protection de la vie privée. Puis là, on s'aperçoit que toutes sortes de choses qui se retrouvent sur Facebook, sur Twitter, et j'en pense, c'est des meilleures. Anna Marin a abordé la question de l'affichage web et a analysé les enjeux éthiques relatifs au recrutement par différents mécanismes comme les bannières et les affiches. Elle s'est demandé c'est quoi le rôle du QCER et de son interaction avec les compagnies. En ce qui concerne le recrutement, il faut regarder... les différents modes, affiches, journaux, courriels. Le message est-il compréhensible? Les informations sont-elles pertinentes? En ce qui concerne le recrutement sur le web, il faut déterminer quelle est l'interface, la source. Il y a des sources locales, des sources internationales. La nature de la protection qu'on va offrir aux gens. Et chose intéressante qu'elle a dite, elle a souligné que la publicité, c'est le début du consentement. Ça, je dois dire, je ne l'avais jamais entendu. Mais quand on réfléchit, la publicité, c'est vrai que c'est le début du consentement. Quand vous mettez une affiche dans une université ou dans un hôpital pour dire projet de recherche sur le vieillissement, déjà, il y a de l'information qui... Puis ça peut amener la personne à dire oui ou à dire non. Docteur Cournoyer a abordé la question du professionnalisme. Il a insisté sur le fait que les gens des comités d'éthique doivent être des membres, on dirait professionnels, mais quand on parle de professionnels, on parle de compétences. Il a effleuré la question de la rémunération. Il a dit aussi que jusqu'à un certain point, il faudrait peut-être envisager avoir des membres de comité d'éthique qui ont une fonction exclusive, à savoir qu'ils consacrent le temps qu'il faut, ils sont rémunérés en conséquence. C'est pas quelque chose qui se fait sur le coin de la table, puis c'est pas quelque chose où est-ce qu'on peut être distrait par toutes sortes de choses. Quand on y pense, les enjeux sont majeurs, et peut-être, et certainement, les ressources sont pas toujours au rendez-vous. Comme il dit, on ne peut pas toujours avoir les mêmes attentes vis-à-vis un bénévole qu'une personne rémunérée. Non pas qu'un bénévole, parce qu'il y en a plein de bénévoles, ne font pas un bon travail, mais si on augmente la charge de travail, c'est qu'à un moment donné, on ne joint pas, comme on dit, les deux bouts. Il a dit qu'en échange de la multiplicité des révisions éthiques, il faut des révisions qui soient rigoureuses et exhaustives. Il y a un prix à payer pour, si on réduit 15 évaluations à une évaluation, il faut être certainement sûr que l'évaluation va être faite par des gens compétents qui ont les ressources. Et ça demeure un point d'interrogation. Il plaide pour la nécessité de renforcer l'expertise des CAR à tous les niveaux et s'interroge sur la pertinence de l'introduction de comités thématiques. Monsieur Simard a parlé de la formation des chercheurs, puis il a dit que la formation des chercheurs, ça vise dans le fond à offrir une meilleure protection aux participants. Puis quand on y pense, c'est vrai. Donc, c'est le besoin de formation et la nécessité de formation. S'il y a un lien entre formation et protection, plus j'augmente la formation, plus peut-être que je vais augmenter la protection des sujets de recherche. Si ce lien-là est véridique, ben il faut investir dans la formation. Il a dit aussi qu'il faut concevoir l'apprentissage comme un continuum. Puis il faut saisir les possibilités d'apprentissage. Que les possibilités d'apprentissage, souvent, c'est sur le terrain. Comme on disait, un chercheur dit « Ah, j'ai un problème au niveau de telle chose. » On dit « Parfait, content, un problème. » Un problème, c'est une source d'apprentissage. Ça, si on oublie. C'est pour ça que chez Toyota, Taishi Ono, quand quelqu'un avait un problème, il était tout content. Parce qu'il dit, il va apprendre. Puis ça, c'est vrai. Puis c'est un apprentissage sur le terrain. Saisissez toutes les occasions. Quelqu'un dit, ah, j'ai un problème avec ça. OK, on va s'asseoir, puis je vais y revenir. Et que ça doit être vu comme un continuum. Il faut maximiser les échanges entre les chercheurs biomédicaux et les chercheurs en éthique. Il nous a démontré que la formation en éthique doit trouver sa niche dans la formation des chercheurs. Et tout ça dans une perspective d'intégration. Et il a dit à nouveau et à plusieurs reprises que la formation, ce n'est pas une dépense, mais un investissement. Mais ce n'est pas toujours compris des autorités hospitalières qui souvent, puis on regarde dans le réseau, qu'est-ce qu'on fait? On coupe sur la formation. Il y a peut-être beaucoup de vos collègues qui n'ont pas pu venir ici parce que leur institution disait « On ne peut pas payer votre déplacement, on ne peut pas payer ci, on ne peut pas payer ça. » Parce qu'on voyait ça comme une dépense. Là, il y a un changement, comme je vous disais, de « mindset ». La culture est dans un sens, mais le « mindset » doit changer. Docteur Simard avait bien compris ça, puis je pense que c'est un exemple à suivre. Emmanuel Lévesque parle du rôle de comment mener un chercheur à s'intéresser à l'éthique. Elle insiste sur le fait que la formation est dans un continuum. Elle explique le pourquoi de favoriser l'établissement de la formation, que l'apprentissage est maximisé quand on appelle quelqu'un à résoudre un problème. Ça, c'est fondamental. Quand quelqu'un a un problème, tu dis, on va s'asseoir et on va voir comment ensemble ou en groupe on peut le résoudre. C'est les meilleures occasions d'apprentissage qui puissent exister. Puis après ça, on arrive certainement avec de la théorie. Une priorité chez les chercheurs de trouver une solution à un enjeu éthique, saisir l'opportunité qui s'offre de se former lorsqu'un enjeu éthique survient. Il a présenté différents moyens de formation. Il faut impliquer les gens dans l'éthique dès le départ. Comme je dis souvent, l'éthique, c'est pas la cerise sur le sundae. C'est le levain dans la pâte. Que si vous mettez la cerise sur Sunday, la cerise, elle va disparaître bien, bien vite. Hein? D'un coup de dent, là, elle est partie. Votre fils la prend, puis c'est fini, il n'y en a plus d'autre. Il y en avait juste une. Mais le levain, il est comme disséminé dans la pâte. Donc, ça doit être à toutes les étapes de l'élaboration d'un projet. On parle d'une approche qui favorise la rétroaction, puis insiste sur le rôle éducatif des CER. Vincent Lajoie aborde la thématique de la fonction du conseil auprès des chercheurs, trouver une solution concrète à un problème réel. Encore là, on revient, et ça, je pense que c'est déterminant. saisir l'opportunité de formation en éthique, être un partenaire du chercheur de la résolution des problèmes, utiliser divers moyens, dont l'accompagnement particulièrement. Puis il faut utiliser profiter des multiples fenêtres d'opportunités lors de différents événements qui surviennent. Enfin, le docteur Carrier a abordé la question de la performance des comités d'éthique. Comment améliorer la performance des comités d'éthique? Il a insisté sur les thèmes performance, qualité et révision. Il a relaté, en fait, ses propos sont inspirés de son expérience depuis 10 années. Pour lui, le travail d'un CER dépasse simplement la révision éthique. En éthique, la qualité est multidimensionnelle. Elle est orientée vers le patient. La révision est orientée vers le patient. La formation est orientée vers le participant, là, ou appelons ça participant. On voit pourquoi est-ce qu'on se forme, puis pourquoi on revise, qu'est-ce qu'on doit avoir en tête, c'est le participant, puis généralement un participant qu'on verra jamais, mais pour lequel on doit avoir beaucoup, je dirais, de caring, en sachant fort bien que ces gens-là acceptent de mettre en jeu un peu leur intégrité, leur vie, de supporter des effets secondaires, même pas pour un bénéfice pour eux. Alors moi, j'ai un très grand respect pour les participants, puis on devrait tous l'avoir, puis si on a du respect pour eux, bien, on va avoir à cœur de se former, on va avoir à cœur de bien faire notre travail, puis comme disait le docteur Carrier, la qualité, c'est le travail bien fait. Puis ça, vous ne devez accepter aucun compromis. Vous devez rester debout, et quand quelqu'un vous dit non, non, je regrette, là, mais insistez auprès des gens. Pour mesurer la qualité ou la performance, il y a différents éléments qui sont quantitatifs, le temps, les taux, il y a des différents éléments qui sont qualitatifs. Alors, comment améliorer la qualité de la performance au travail? Bon, il y a la formation continue en éthique, il y a des systèmes de monitoring, différents mécanismes auxquels il a fait référence, il y a des questionnaires, des visites sur le terrain. Visites sur le terrain, ça se fait de moins en moins. Moi, durant 6 ans, j'ai fait des visites pour NCARE, j'étais président du comité d'évaluation. On est allé dans différentes universités et dans différents comités d'éthique. Et là, on n'allait pas évaluer le comité d'éthique, on allait évaluer l'institution. Puis là, on commençait par en haut. Puis là, on demandait en haut, vice-recteur d'une université, comment ça va? Ça va très, très bien. On est au-dessus de nos affaires, on a une personne qui gère le comité d'éthique, qui est exceptionnel, puis elle gère le comité des animaux, puis elle s'occupe de ci, puis elle s'occupe de ça. C'est vraiment notre star. Puis là, on descendait un petit peu plus bas, puis comment ça va? Ah, ça va bien. Là, on arrivait au comité d'éthique, puis des chercheurs, comment ça va? Ça va pas pantoute. En haut, ils ne savaient pas ce qui se passait en bas. Ça se demandait s'ils étaient intéressés. Et je me rappelle, dans cette réunion-là, 15 minutes avant de partir, la personne qui était le star a dit, « Je pars dans 3 semaines. » Ah bon? Ça va être remplacé par quelqu'un qui ne pouvait pas. Vous voyez comme un disconnect entre en haut et en bas. Est-ce que les gens connaissent vraiment ce que vous faites? Bien, ils le savent par les rapports des comités d'éthique qui sont acheminés au conseil d'administration. Mais un rapport, c'est un rapport. La réalité terrain, on ne la voit pas. Donc, du monitoring, des questionnaires, des visites sur le terrain, la proximité, c'est important parce que c'est là que ça se passe. Et comme je vous ai dit hier, ce qui est important, c'est le travail que les gens font sur le terrain. C'est là qu'est l'expertise, c'est là que sont les connaissances, c'est là qu'est la créativité, et c'est là qu'il faut travailler. Il a également finalement parlé d'échanges, de rencontres, de discussions. Il a terminé là-dessus. Alors moi, je vais terminer là-dessus. J'ai essayé en peu de mots, en peu de temps, de vous faire retenir certains éléments. Ce sera tout mis, je pense, sur le site. Et en mon nom personnel, puis au nom de Michel, puis au nom de Bruno. Et Bruno est un être fantastique. Je sais qu'il n'aime pas ça qu'on dise ça, là. Mais on a travaillé 1 an ensemble. Il est d'une efficacité, d'une douceur, d'une amabilité. C'est une joie de travailler avec lui. Et comme on dit, il mène la barque, puis la barque, elle s'en va droite, et il sait travailler en équipe. Alors, comme il ne viendra pas se remercier lui-même, je tiens à le remercier au nom de Michel, personnellement, pour l'excellent travail.
Hein? Moi, la seule chose, c'est pour vous remercier d'avoir fait le déplacement. Je remercie aussi les conférenciers, les présidents de session. Et puis, il y avait un groupe, c'était le groupe préparatoire. Je les remercie beaucoup. Et mes deux copains, je vous remercie. Donc, notre prochaine conférence téléphonique, c'est peut-être mardi ou mercredi.